Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins arpentent tous les jours la voie du milieu en compagnie de Tristan Grenassia, Marianne Chassor, Samuel Legendre, Antoine Ravon et Géraldine Mosna-Savoie, à la réalisation de Paix intérieure, Midia Portis-Guérin, à la lecture méditative Georges Clès, avec aujourd'hui à la prise de son Jean-Michel Bouda-Coqui. h 51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous parlera aujourd'hui de 2 livres du philosophe italien Giorgio Colli, Après Nietzsche et La naissance de la philosophie, publiés aux éditions de l'Éclat. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Actualité éditoriale bien sûr, mais aussi séminaires et festivals, autant de façons de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Souvenez-vous, c'était il y a 1 mois. Pour la première semaine de l'année 2015, nous avions choisi de vous parler de bonheur, sans consulter les astres ni la météo. D'audacieux, ce thème est devenu indécent à la suite des attentats survenus au siège de Charlie Hebdo le mercredi 7 janvier dernier qui nous ont conduits à déprogrammer la dernière des émissions consacrées au bonheur pour vous proposer à la place une réflexion à chaud sur les événements par 3 professeurs de philosophie, Hélène Leuillet, Michael Fessel et Abdennour Bidar. Mais cette émission n'est pas tombée aux oubliettes. Il devait s'agir de bouddhisme, d'éveil et de voie du milieu. Ce sera donc le thème du jour, grâce à Philippe Cornu, initialement invité le 8 janvier dernier, qui a accepté de venir aujourd'hui se demander si le bouddhisme est réellement une philosophie du bonheur. C'est en tout cas le titre de son livre, publié aux éditions du Seuil. Bonjour à vous Philippe Cornu.
Bonjour. Il y a 2 rois dont le premier s'emploie à faire observer la justice dans toutes les affaires qui se traitent dans le royaume. L'autre vit oisivement dans son palais, comme dans une solitude, retiré du monde, exempt d'affaires et libre de tout soin. Et non seulement adorer des habitants du lieu comme une divinité, mais encore tous les autres rois de la Tartarie qui lui sont sujets entreprennent volontairement des pèlerinages pour lui aller rendre leurs adorations, comme au Dieu vivant et véritable. Il se tient dans un lieu obscur et secret de son palais, tout couvert d'or, d'argent et de pierreries, éclairé par quantité de lampes, élevé sur un lieu éminent, assis sur un duvet, les pieds appuyés sur des précieux tapis étendus. Il est tellement honoré et respecté de tout le monde que ceux-là s'estiment heureux qui peuvent obtenir par des riches dons de l'urine ou des autres excréments du grand lama qu'ils portent pendus au col. Abominable vilainie, oui. Ils mêlent même cette urine parmi leur viande, s'imaginant sottement que ce sont des préservatifs pour les défendre contre toutes sortes de maladies.
C'est en 1661 que les pères Albert d'Orville et Jean Gruber se rendent de Pékin en Chine à Agra en Inde, traversent la Tartarie, le Tibet et le Népal, passent par Lhasa et recueillent tous ces détails dont on a entendu un extrait, hein, Philippe Cornu, qui est une manière assez intéressante de commencer cette émission, puisque bien que ça se passe au XVIIe siècle, finalement les idées reçues sur le bouddhisme sont aussi nombreuses sans doute aujourd'hui qu'à l'époque.
Oui, c'est très étonnant d'ailleurs de voir un peu ce... On a déjà les fantasmes des Occidentaux sur le Tibet, quoi. Et ça ne va pas cesser, en fait, jusqu'à époque très récente. Et même, je dirais que ça m'évoque justement l'idée que les gens ont encore, ou certains journalistes encore, du Dalai Lama comme un Bouddha vivant, vous voyez, comme un dieu vivant même, je dirais. Hein, on voit souvent ça. Ou alors, le bouddhisme tibétain comme étant une théocratie. Alors que, bon... Pour avoir une théocratie, il faut avoir des dieux. Il faut avoir un dieu, enfin, il faut croire en un dieu.
Or, ce n'est pas le cas du bouddhisme.
Non, ce n'est pas le cas. Et puis, de toute façon, le Dalai Lama, bon, c'est un personnage important. C'est un personnage qui était à la fois politique et religieux, qui a été mis sur le trône, en fait, au disons dans la première moitié du XVIIe siècle, par les Mongols. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Et d'autre part, on ne peut pas dire que le Dalai Lama soit même le chef de son école. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été... alors bien sûr, c'était un souverain, etc., assez important. À l'époque, d'ailleurs, c'était le moment où donc il avait été intronisé. Je pense que là, ça devait être déjà le... Je me demande si c'était bien le cinquième encore. Non, vous m'avez dit la date...
En 1661.
Ah, je me souviens plus bien de la date de la mort du cinquième, du grand cinquième. Mais le grand cinquième, c'est vraiment le premier grand Dalai Lama qui est intronisé. Les autres, les premiers, le premier, deux, trois et quatre, n'ont jamais été intronisés, en fait. Ils ont été simplement reconnus à titre postérieur, vous voyez. Mais comme des réincarnations précédentes. Mais c'est le cinquième qui a commencé, en fait, la lignée.
Vous avez parlé de bouddhisme tibétain. Est-ce qu'il est différent du bouddhisme indien? Peut-être si on mettre au point dès à présent...
Le bouddhisme tibétain est une émanation directe du bouddhisme indien, mais d'un bouddhisme indien tardif qui a eu le temps d'évoluer déjà pendant, plus de... presque 1200, 1300 ans depuis le moment où le Bouddha est apparu sur Terre.
C'est-à-dire à peu près le 6e siècle avant Jésus-Christ.
Voilà, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et au Tibet, ça commence au 8e siècle après Jésus-Christ. C'est le pays qui est dans toutes les régions asiatiques touché le dernier. Donc en fait, il hérite d'un bouddhisme très évolué, très complexe philosophiquement. Avec trois couches, en fait. Il y a la couche, disons, du bouddhisme ancien qui donne le code monastique. Il y a le grand véhicule, ou Mahayana, le véhicule de la compassion et de la vacuité, qui, lui, donne toute l'assise philosophique du bouddhisme tibétain. Et, par-dessus, il y a les pratiques qui viennent du Vajrayana ou du Tantra. Alors là, bon, évidemment, il y a quelque chose de totalement folklorique, l'Epsion. C'est vrai que, parfois, les Tibétains ont une très, très grande dévotion, et ils l'ont. Ils l'ont pour le Dalai Lama, effectivement. Maintenant, dire qu'il est couvert de pierreries, etc., dans un palais obscur, oui, bon, le Podiala n'était pas forcément très bien éclairé. Il y avait certainement pas mal de lampes à beurre qui éclairaient les différentes salles. Mais bon, le 14e Dalai Lama lui-même raconte, quand il parle de son enfance, qu'il avait un peu peur dans les couloirs du Potala. C'était assez impressionnant pour un enfant.
La description qu'il nous est donnée est celle aussi d'un état, d'un mode de relation, disons, politique entre un souverain et ses sujets, réalité.
Oui.
Qu'en est-il pour le bouddhisme? Alors là, je m'adresse au professeur que vous êtes, Philippe Cornu, puisque vous enseignez le bouddhisme, l'hindouisme et l'histoire des religions à l'Université catholique de Louvain. Le bouddhisme est-il une religion, précisément, ou bien une philosophie? Vous avez parlé d'éléments de philosophie.
Oui, alors il y a des éléments de philosophie, parce que la philosophie permet d'étayer un certain nombre de thèses, etc., qui sont importantes, surtout quand il y a des discussions avec des vis-à-vis. En Inde, il y avait énormément de controverses philosophiques ou religio-philosophiques. On ne peut pas dire que le bouddhisme ne soit pas une religion, honnêtement. Il faut arrêter avec ça, parce que les bouddhistes ont une tendance eux-mêmes à se présenter comme étant, enfin les bouddhistes occidentaux, à se démarquer de la religion. C'est comme s'ils avaient un peu peur du mot, c'est pas un mot qui sent très bon pour eux, et alors ils voudraient bien être une philosophie ou quelque chose de rationnel, ou alors une religion athée. Tout ça, c'est un petit peu quand même, c'est un montage occidental, honnêtement. Tous les éléments du religieux sont existant dans
sauf
le
Dieu,
bouddhisme.
Vous l'avez dit.
Sauf Dieu, mais c'est
ce une
religion
rien,
non théiste.
Voilà. Alors à quoi ça ressemble?
Parce que toutes les religions ne sont pas forcément théistes. Là, si vous voulez, on va également se relier à une transcendance, mais cette transcendance, elle est dans l'immanence, c'est-à-dire dans le cœur. Elle est au sein de chaque individu. Donc il n'y a pas cette distinction avec un Dieu créateur, il n'y a pas cette relation créateur-créature. Mais ça n'empêche qu'on a quand même une relation avec une dimension inconditionnée. Et cette dimension inconditionnée, c'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha qui est présente en chaque être. Donc, de toute façon, cet élément-là, déjà, demande au départ une certaine foi. Et pas une croyance, parce que, quelque part, moi, je distingue très nettement la croyance et la foi. Pour moi, la croyance, il y a une part très construite dans la croyance. On s'efforce de croire en quelque chose. Il y a quelque chose de fabriqué dans la croyance. La foi, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, ça vient d'une expérience profonde. Et donc la foi, elle existe dans le bouddhisme. C'est la foi déjà dans les paroles du Bouddha, quand on les reçoit, il y a déjà quelque chose qui nous touche. Et puis ensuite, quand on devient un pratiquant, eh bien, c'est dans la pratique qu'on doit vérifier en quelque sorte la véracité ou la... la pertinence de ce qui est dit dans les enseignements. Et alors, à ce moment-là, évidemment, il y a une gratitude qui peut arriver, et la foi se construit de cette manière-là. Hein, donc, il y a déjà un élément de foi. Il y a un élément de culte, il y a un élément de sacré. Mais le sacré n'est pas quelque chose d'interdit, n'est pas quelque chose de séparé. Dans le bouddhisme, on a une vision du sacré différente, c'est-à-dire que le sacré, c'est quand on bascule du côté d'une perception pure de l'existence. C'est-à-dire quand on commence à voir les choses du côté de leur nature ultime et non pas de leur nature relative, de leur vérité ordinaire, sur laquelle, en fait, notre esprit projette toutes sortes de choses. Et donc, on a un autre rapport au monde, un autre rapport à soi-même, et c'est ça qu'on appelle la perspective sacrée dans le bouddhisme. Mais il y a quand même, si vous voulez, moi, je dirais que le bouddhisme, c'est un petit peu une religion un petit peu ovni, vous voyez ? C'est-à-dire que tous les thèmes qui sont traités dans d'autres spiritualités, sont traités dans le bouddhisme, mais pas forcément de la même manière.
Alors, c'est justement le sujet de cette émission dans laquelle vous avez accepté de participer, Philippe Cornu, et je vous en remercie, puisque c'est un des sujets qui sont mal connus, en tout cas ici en Occident, peut-être a fortiori en France, donc essayons de dissiper tous ces malentendus. Religion, vous l'avez dit, le bouddhisme l'est certainement. Il est aussi certainement une philosophie, alors je vous propose qu'on écoute un texte tout de suite, interprété par le comédien Georges Clès. Alors, c'est un extrait des Vinaya Pitaka des Dharmaguptaka. Est-ce que je le prononce bien ?
Bravo !
Bon, voilà, dans lequel vous allez entendre Bouddha qui explique à ses 5 premiers disciples les 2 principes sur lesquels repose toute la philosophie du bouddhisme, la loi de l'impermanence universelle et l'absence de soi. Écoutons-le.
Après le déjeuner, le bienheureux dit aux 5 moines « Ô moines, la matière est dépourvue de soi. Si la matière était le soi, le corps ne croîtrait pas et l'on ne sentirait pas la douleur. Si la matière était le soi, on devrait exercer sa volonté sur elle sans obstacle, prendre telle forme qu'on désirerait ou laisser telle autre qui déplairait. Il en va de même des sensations, des perceptions, des compositions mentales et de la conscience. C'est pourquoi, ô moine, aucune matière, qu'elle soit passée, future ou présente, interne ou externe, grossière ou subtile, belle ou laide, lointaine ou proche, n'est ni moi, ni autrui, n'appartient ni à autrui, ni à moi. Il faut produire cette considération correcte, conforme à la réalité, cette connaissance, cette sagesse. Il en va de même des sensations, des perceptions, des compositions mentales et de la conscience. Ainsi, ô moine, le saint disciple, après avoir compris cette considération, est dégoûté de la matière. En étant dégoûté, il ne s'y attache plus. Ne s'y attachant plus, il obtient la délivrance. Étant délivré, il obtient la connaissance de sa délivrance.
Quel est le plus important ici, Philippe Cornu, le fait que la connaissance doit conduire à la délivrance ou bien le détachement de la matière auquel doit conduire cette forme de connaissance ? Ou est-ce que les deux sont liés finalement ?
C'est lié, mais le détachement, je n'aime pas le mot détachement, alors, je dirais non-attachement, c'est beaucoup plus juste. Parce que le détachement, il y a encore quelque chose, comme une croyance à quelque chose, pour qu'on se détache. Il y a une sorte de réaction. Le bouddhisme ne va pas fonctionner de cette manière-là. Ce n'est pas un contre quelque chose. On ne se détache pas de la matière, on ne se détache pas du monde. Ça, c'est encore une idée communément reçue. L'idée que le bouddhisme serait une sorte de fuite du monde. Hein. Parfois, on a vu ça dans des milieux chrétiens, des critiques sur le bouddhisme. Non, pas du tout. C'est pas la question. Le monde n'y est pour rien. C'est notre esprit qui s'attache ou qui se saisit des choses et qui, en quelque sorte, les corrompt. Mais il les corrompt pour soi-même, c'est-à-dire que quelque part, nous fabriquons notre vision du monde, notre vision des autres, notre vision de nous-mêmes, en nous attachant, en saisissant des concepts sur les choses. C'est ça qui est problématique, et c'est ça qui nous mène à une fausse conception de l'existence, de l'univers, de nous-mêmes dans l'univers, et c'est ça qui nous amène à la souffrance.
C'est-à-dire que nous ne percevons pas les choses en elles-mêmes.
telles qu'elles sont.
Telles qu'elles sont.
On ne les voit pas.
Mais pourtant, il n'y a pas de principe de soi, avons-nous dit. Il n'y a pas de principe individuel. Donc, comment les choses peuvent-elles être en elles-mêmes si le soi n'existe pas?
Eh bien, quand elles sont en elles-mêmes, ce ne sont pas des substances. Ce ne sont pas des essences, comme dans le système aristotélicien, auxquelles, même si on n'est pas très conscient, on est tous attachés en Occident. Non, il n'y a pas d'ontologie à ce niveau-là. Il n'y a pas de principe ontologique de ce genre. S'il y a véritablement une dimension de la réalité absolue, cette dimension, en fait, c'est une ouverture complète. C'est quelque chose qui est totalement... Si vous voulez, les phénomènes n'ont pas besoin d'avoir une essence pour exister, hein, dans le bouddhisme. Si les phénomènes ont une essence, selon le bouddhisme, cette essence étant immuable, on ne peut pas avoir de transformation. Donc il ne peut pas y avoir de naissance, il ne peut pas y avoir de destruction. Par conséquent, ce qu'on explique, c'est qu'en fait, ce n'est pas, par exemple, quand vous avez un grain de riz, une pousse de riz, un plan de riz qui se succèdent. Alors, on voit bien sûr des apparences différentes, mais chez Aristote, on va dire, c'est quand même le même riz, c'est-à-dire la même substance.
Il est contenu en puissance
voilà,
dans la graine.
Exactement. Là, c'est pas du tout ça. C'est que chaque phénomène a une forme et des caractéristiques différentes au cours de ce processus. Donc, chaque phénomène est distinct. Et en même temps, il est engendré en série, dans une même série phénoménale, mais qui n'est qu'un processus. Et à aucun point dans un processus, on ne peut véritablement emprisonner une chose.
Donc c'est une continuité permanente.
Voilà, c'est quelque chose, c'est un devenir permanent, si vous voulez. C'est une... On va insister sur l'aspect de processus dans lequel on ne peut jamais saisir quoi que ce soit. Or, si la réalité est telle, et que nous ne faisons que tout le temps projeter sur cette réalité... une saisie pour fixer les choses, on comprend bien pourquoi on souffre.
Alors voilà, vous avez parlé de la souffrance. Quel lien, du coup, c'est de la difficulté de saisir les choses que nous souffrons?
Mais bien sûr. C'est-à-dire, on saisit les choses qu'on ne peut pas saisir en réalité. Donc, automatiquement, il en arrive une déconvenue, une frustration, une douleur. Il n'est pas possible de saisir la vie. Il n'est pas possible de posséder... des choses, en fait, tout ce qu'on croit posséder dans l'existence, c'est une sorte de leurre. On le sait très bien au moment de la mort. On quitte tout ça, on est bien obligé. Tous les biens qu'on a pu accumuler dans la vie, tous les amis, tout ce qu'on aime, tout cela, il faut le quitter. C'est en permanence que ça se passe, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup, justement, dans le bouddhisme, sur le principe de... l'impermanence, le caractère transitoire de l'existence. Ça ne veut pas dire pour autant que les choses n'ont pas d'existence du tout, mais les choses nous échappent dans une fluidité permanente. Il y a tout le temps un flux, quelque part, d'existence. Et ce flux d'existence, si on arrive à lâcher, en quelque sorte, ce désir en fait, obstiné que nous avons de nous identifier à quelque chose, hein, parce qu'en fait, nous créons ce soi par identification. On s'identifie, alors comme le disait le texte, à notre forme. On s'identifie à nos sensations, on s'identifie à nos principes mentaux, à nos représentations mentales, à nos habitudes. On s'identifie à ce que nous avons dans la conscience. Mais aucun de ces éléments ne dure. Tout est extrêmement transitoire dans tous ces éléments-là, même le corps. Le corps, il change tout le temps. Et ça, on ne veut pas le reconnaître. Et on fait comme si on allait vivre éternellement, ce qui n'est pas le cas.
Le message fondamental du Bouddha est consigné dans un enseignement qui s'appelle les quatre nobles ou saintes vérités.
Oui.
Et on peut les citer. On a reconnaître la souffrance sous toutes ses formes dans l'existence.
Exactement.
En comprendre l'origine véritable, avoir pour objectif sa disparition et mettre personnellement en pratique le chemin spirituel pour ce faire. Mais pour que la douleur disparaisse, si on vous suit, Philippe Cornu, il faut s'éteindre soi-même.
Non.
Puisque la douleur est le propre de l'existence.
De l'existence conditionnée par nos habitudes mentales. Si nous débarrassons des habitudes mentales qui consistent à saisir l'existence, l'existence se produit tout de même. Donc nous ne disparaissons pas pour autant dans un néant. Ça, c'est une grande erreur. C'est comme si nous avions une inquiétude fondamentale en Occident.
Ça, je vous le confirme.
On s'accroche vraiment aux branches, quoi. Mais sauf que les branches ne tiennent pas non plus. Donc pourquoi s'accrocher aux branches? On s'accroche aux branches et les branches craquent. Et on est tout le temps dans la fabrication d'une certitude. Par exemple, le soi, que souvent on appelle l'ego, hein, c'est peut-être un peu malencontreux, mais c'est quelque chose qu'on construit à chaque instant. À partir de nos souvenirs, à partir de nos mémoires, à partir de nos expériences passées, on essaye de construire un soi qui soit solide. Mais c'est comme si on construisait quelque chose avec des murs de sable. À peine le premier mur est construit, qu'il commence à s'effriter, on est en train de construire le second, et en fait, il faut s'agiter énormément pour essayer de se donner un semblant de solidité. Mais notre personnalité, elle change tout le temps aussi. C'est juste d'abord accepter ce changement. Voyez, parce que si on commence à accepter ce changement, on commence à voir autre chose que la saisie. On commence à voir une dimension qui est complètement ouverte derrière. Et dans cette dimension-là, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte à avoir. Parce qu'on ne naît pas et on ne meurt pas vraiment non plus.
Voilà. Bah alors, je suis contente de vous l'entendre redire, puisque c'est quand je disais que pour suspendre la douleur, il fallait s'éteindre soi-même. C'est-à-dire qu'il faut aussi inscrire ce cheminement, puisque c'en est un, on y reviendra, vers la suspension, je ne sais pas si le terme est bien choisi, de la douleur, dans une durée qui est plus longue que celle d'une seule vie.
Oui, parce que d'abord, on n'est pas dans une logique du commencement, du tout premier commencement, du Big Bang ou je ne sais quoi, vous voyez, comme en Occident, où on aime bien se poser des questions sur « oui, mais comment ça a commencé ?» Non, on est dans une causalité qui n'a pas de commencement, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la coproduction conditionnée des phénomènes. Les phénomènes ont toujours des causes et des conditions. Donc, si vous remontez à un phénomène que vous dites premier, en réalité, il n'est pas premier. Il y a eu des causes et des conditions antérieures. Et il y en aura toujours. Donc, notre esprit fonctionne aussi selon ce principe de coproduction conditionnée. Donc, notre esprit n'a pas de commencement. Notre esprit n'a pas de fin. Par contre, notre esprit, c'est complètement idiot de dire depuis, puisque je vous dis, il n'y a pas de commencement dans le temps. Mais nous avons toujours été, en quelque sorte, pas véritablement en phase avec notre véritable nature. C'est-à-dire que nous avons toujours essayé de construire une pseudo-nature pour nous rassurer, parce que nous sommes ignorants de notre vraie nature. Et nous avons toujours construit quelque chose, toujours élaboré quelque chose, des scénarios d'existence, en quelque sorte, pour essayer de conforter une existence qui soit à peu près solide et viable.
Et en quoi la réincarnation n'est-elle pas un autre scénario d'existence
pour
dissiper l'inquiétude ?
C'est exactement ça. Ah, voilà. Et c'est une horreur, la réincarnation. Le bouddhisme ne cherche pas à entretenir les incarnations. Ce n'est pas d'abord des incarnations, ce sont des renaissances. Hein, parce qu'il n'y a pas de principe à réincarner. Il n'y a pas d'âme. Toujours pareil, il faut toujours déconstruire l'aspect substantiel des choses. Hein. L'esprit, c'est un continuum psychique qui est tout le temps en processus. C'est comme un fleuve. Vous ne pouvez pas dire que le fleuve, il a une consistance comme une âme. L'esprit, comme un fleuve. Donc, si vous voulez, dans un fleuve, vous pouvez toujours appeler le fleuve la Seine, par exemple, vous allez toujours l'appeler la Seine. Mais ce n'est jamais la même eau qui coule. Le contenu de l'esprit n'est jamais exactement le même. D'un instant à l'autre, votre esprit a changé. Donc, c'est toujours pareil. Essayez de ne jamais saisir les choses. Ça n'empêche pas les choses de se manifester. Ça n'empêche pas les choses d'exister. Au contraire, ça leur permet de se manifester et d'exister. Donc, c'est complètement une autre logique. C'est ça qui est très difficile à comprendre dans le bouddhisme, parce que ça prend totalement à rebours notre vision de l'existence.
Reste à savoir quelle est cette méthode ou ce chemin à suivre pour y parvenir. Et je vous propose qu'on laisse la parole à André Barraud, qui était professeur au Collège de France, un grand spécialiste français du bouddhisme, qui s'exprime ici sur l'enseignement du Bouddha. C'était le 27 avril 1966 dans l'émission À voix haute, à voix basse.
Le Bouddha enseigne à ses disciples à lutter contre toutes les formes de passion et à rechercher notamment une sérénité telle que plus rien ne peut les affecter. À ce moment-là, ils sont considérés comme étant complètement libérés et capables alors d'atteindre cette ineffable sérénité de ce qu'on appelle le nirvana, c'est-à-dire l'extinction. Pour l'atteindre, il faut d'abord, évidemment, respecter scrupuleusement les préceptes moraux qui sont donnés à tous les fidèles, et qui sont beaucoup plus nombreux et plus stricts encore pour les moines. Ensuite, s'astreindre à un certain nombre d'exercices particuliers, qu'on appelle en gros les méditations, les concentrations d'esprit, et qui visent justement à ôter du psychisme tout ce qui peut justement lier l'homme aux vicissitudes de l'existence, aux passions, aux vices, etc.
The Buddha. Bouddha au pays des célestes est un dieu très très indolent. C'est un bon ventru, un gros joufflu qui fait la sieste 361 jours par an. Avec un large et bon sourire, il contemple heureux son nombril. Mais ce qu'il adore et ce qu'avant tout il désire, c'est qu'en passant lui sourit. Bon Bouddha, Dieu t'audit puisque c'est ton dada. Ah, 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 ah. Bon Bouddha, non jamais on ne te boudera. Ah, 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 ah.
Ce n'est en tout cas pas aujourd'hui que nous allons bouder Bouddha, comme le chante Fernandel. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe Cornu, qui enseigne le bouddhisme, l'hindouisme et l'histoire des religions à l'Université catholique de Louvain, et qui a écrit un ouvrage intitulé « Le bouddhisme, une philosophie du bonheur ?» disponible au Seuil.
Tous les amoureux, il ne peut souffrir et tolérer lorsque l'on s'aime, que l'on puisse être malheureux. C'est pourquoi si Bouddha supporte que chacun d'eux se boude un peu, c'est parce qu'il sait bien qu'en se boudant de la sorte, ils ne s'en aimeront que mieux. Bon Bouddha, Dieu t'audu puisque c'est ton dada. Ah, 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 ah. Bon Bouddha, non jamais on ne te boudera. Ah, ah, ah. Faut pas bouder, bouder, Bouddha, sinon Bouddha, Bouddha, Bouddha. Et lorsque Bouddha, 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 c'est pour nous le grand coup de bambou de boubou de Bouddha.
Sacré Fernandel. Alors, avant Fernandel, Philippe Cornu, on entendait André Barraud, donc je l'ai dit. Et ce qui est assez frappant dans ce que disait André Barraud, c'est qu'il avait l'air de présenter le... disons, l'atteinte de ce nirvana, de l'extinction, on va y revenir, vous allez nous définir ce dont il s'agit, eh bien, il fallait suivre certains exercices, il parlait même de préceptes moraux. Or, il me semblait que si le Bouddha était une philosophie, peut-être une religion, il n'y avait pas à proprement parler de morale.
Ah, si, il y a une grande éthique.
Alors, ah, voilà, mais ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a un bien et un mal dans le bouddhisme?
Ce n'est pas un bien absolu ou un mal absolu, comme on pourrait les opposer en Occident, disons. Mm-hmm. Ce n'est pas du tout ça qui est vu. Mais par contre, tout ce qui peut attiser la souffrance, créer la souffrance, augmenter la souffrance, évidemment, est à éviter. Et tout ce qui peut, au contraire, aller dans le sens du soulagement, de la souffrance et le fait d'aider les êtres est tout à fait encouragé. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les passions, ce sont des poisons de l'esprit pour le bouddhisme. Ce ne sont pas toutes les émotions qui sont des passions. Hein. Ce sont que les émotions susceptibles de nous amener à plus de souffrance. Donc, par exemple, la jalousie, la colère, le désir de possession. Mais pas tous les désirs, car il faut bien avoir le désir de l'éveil. Ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est découragé, évidemment. La compassion, c'est un sentiment noble, évidemment. Donc, vous voyez, en fait, on va faire la différence entre un certain nombre d'états mentaux ou d'états psychiques, d'émotions, ce qu'on pourrait appeler des fois des émotions en Occident. D'ailleurs, le terme ne recouvre pas exactement les choses en Occident et en Orient.
Les affects, dirait Spinoza. D'ailleurs,
oui,
c'est très proche de
voilà,
ce que vous êtes en train de dire.
Exactement.
Hein, les passions positives, négatives.
Voilà. Alors ça, on va au quotidien, disons, évidemment, dans une certaine discipline éthique, on va encourager certains comportements qui sont liés à des états d'esprit positifs, qu'on appelle d'ailleurs des états efficient, efficace, kusala. Ça veut dire efficace en vue de l'éveil, en vue de la libération. Alors que les états négatifs, ce sont ceux qui sont inefficients, ceux qui nous plongent, qui nous plombent en quelque sorte, et qui nous font plonger dans la souffrance de plus en plus. Donc on fait bien la différence dans la psychologie des facteurs mentaux positifs et négatifs, en effet. Et ça, donc, c'est l'objet de la discipline morale. Mais il ne suffit pas d'avoir des principes ou de prendre des préceptes. Il faut aussi travailler sur son propre esprit. Et ça, c'est la méditation qui le permet. Donc, quand vous observez votre propre esprit, vous voyez comment surgissent les pensées et les émotions au sein de votre esprit, et vous apprenez à ne plus les suivre comme un petit toutou, ce que nous faisons tous. On adhère constamment à nos pensées, on adhère constamment à nos états affectifs. Quand on a la colère qui surgit, on s'identifie totalement à notre colère. On est incapable de rester neutre par rapport à la colère. Donc cette colère, elle fait des ravages parce qu'elle nous engage en entier. Et elle a un impact conditionnant sur notre esprit. C'est ça qu'on essaye de défaire dans la pratique de la méditation, d'arriver à trouver cette dimension, cet espace ouvert dans lequel les émotions, les passions, etc. peuvent surgir, mais ne nous enchaînent plus, ne nous aliènent plus. Et quand on n'est plus aliéné par cette espèce de tempête permanente, hein, qui est vraiment une tempête dans un verre d'eau, le verre d'eau de notre esprit, hein, c'est comme si on avait de la boue dans notre esprit et qu'on agitait constamment le verre d'eau, et donc il y a toujours de la boue. Là, dans la méditation, d'abord, on calme le jeu. Et quand on calme le jeu, qu'est-ce qui se passe ? La boue se dépose. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ? La limpidité de l'eau. Eh bien là, c'est pareil. On voit la limpidité de l'esprit apparaître de plus en plus. Au fur et à mesure qu'on calme l'esprit, on peut découvrir un aspect de clarté dans l'esprit, bien plus important que dans l'esprit ordinaire. Parce que notre intelligence elle-même est brouillée par l'ensemble des pensées que nous pouvons fourbir constamment à travers tous nos états d'esprit.
Et alors le but recherché, c'est toujours celui de diminuer la douleur au maximum. Bah,
c'est-à-dire que la douleur, c'est lié à cette confusion.
Mais est-ce que c'est le but ultime ? C'est un moyen, il s'agit
de... ça sera un résultat. D'ailleurs, nirvana signifie finalement au-delà de la souffrance. En tout cas, la traduction tibétaine est claire, c'est au-delà de la souffrance. C'est le fait de transcender la souffrance. C'est pas un état neutre, c'est pas un état de mort clinique. C'est un état, au contraire, bien plus vivant. Parce qu'en fait, pour l'instant, nous sommes grévés d'un ensemble d'affects qui nous font souffrir et qui nous épuisent.
Donc si bonheur il y a dans le bouddhisme, c'est au sens stoïcien du terme de la suspension de la douleur.
Oui, mais je dirais même qu'on fait cesser aussi, c'est plutôt le fait qu'on va plus loin, on assèche toutes les causes de la souffrance. Parce que si on découvre la nature de notre esprit, on s'aperçoit que la nature fondamentale de notre esprit est au-delà de toutes ces couches, en quelque sorte, de tempêtes émotionnelles ou de pensées ou de concepts qui nous agitent constamment. Et que c'est un être extrêmement limpide et où les consciences ordinaires sont remplacées petit à petit par ce qu'on appelle la sagesse. C'est-à-dire une possibilité de voir les choses, de connaître les choses et de voir les choses dans leur véritable nature et non pas seulement dans leur apparence.
Mais alors, que répondez-vous à ceux qui vous diront que finalement, le bouddhisme bien compris n'est autre que ce qu'on appellerait aujourd'hui une forme de théorie du développement personnel ?
Eh ben, que ces gens-là se mettent à la pratique et ils verront que ce n'est pas la même chose. Le développement personnel, alors ça dépend de quel développement personnel il s'agit, mais si on parle du développement personnel à la façon habituelle et à la mode, je dirais qu'effectivement, les gens ne se rendent pas compte que dans ce cas-là, on ne fait que réparer la surface des choses. On ne fait que réparer le petit égo, qui finalement a beaucoup de petits bobos dans la vie. Hein. On se prend des bosses. Mais ça ne traite jamais le fond du problème. C'est comme le New Age qui prétend nous amener à une sorte de spiritualité molle et plate, horizontale. Il n'y a plus de transcendance. On ne cherche rien de véritablement fondamental dans l'existence. Et ce n'est pas parce qu'on va se faire du bien. Évidemment, c'est pas mal de se faire du bien. Moi, je ne dis pas. Hein. Si on peut se faire du bien, tant mieux. C'est toujours ça de prix.
C'est ça, ce n'est pas un ascétisme non plus, le bouddhisme.
Ce n'est pas de la spiritualité. Ouais. La spiritualité, c'est vraiment aller au fond des choses. Se poser des questions sur notre existence, sur le fond de notre existence, sur la manière dont on se relie aux autres, la façon dont on se relie à cet univers, et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans cette façon d'exister. Et si on ne se pose pas ces questions fondamentales, franchement, à quoi sert de vivre ?
Oui, la question se pose en effet. Mais comment formuler cette question-là dès lors qu'on l'a dit, il n'y a pas de principe individuel dans le bouddhisme, que le soi n'a pas de consistance ? Qui pose cette question ?
C'est le petit soi.
Est-ce que le but de la méditation, c'est justement de se défaire de cette perception
subjective ?
C'est
le petit soi qui n'existe pas, le petit soi qu'on a construit de toutes pièces. Mais il existe une véritable nature fondamentale en chacun, qui est la nature de Bouddha. Et cette nature de Bouddha, elle est le résultat du cheminement de chacun. Quand on devient un Bouddha, au bout du compte, on ne se fond pas dans une espèce de bouddhéité unique. On devient un Bouddha de plus. Ça veut dire que les Bouddhas restent avec une forme d'histoire individuelle. Parce qu'un Bouddha, c'est le résultat du cheminement d'un être ordinaire. qui devient de plus en plus proche de sa vraie nature. Chaque être qui va faire ce cheminement va devenir un Bouddha. Et chaque Bouddha va pouvoir déployer ses propres activités de compassion pour les autres êtres.
Qu'est-ce que ça veut dire, Bouddha ?
Un éveillé, mais je dirais que la définition tibétaine est peut-être plus précise, puisqu'elle est plus dans le sens, hein, c'est-à-dire sangye. Sangye, sang veut dire qui a nettoyé, qui a dissipé, purifié toutes les causes, en quelque sorte, de confusion et de souffrance. Et gye, ça dit épanouissement de toutes les qualifications, de toutes les qualités. C'est-à-dire que toutes les qualités, en fait, de l'esprit atteignent leur maximum à ce moment-là, étant donné que tous les voiles ont été dissipés. Car c'est bien d'une question de voile à dissiper qu'il est question. C'est-à-dire que les voiles, c'est ce qui est créé par notre ignorance d'une part et par nos émotions négatives, nos passions. Ces voiles obscurcissent notre entendement, nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Et nous jugeons en fait le monde, l'existence, les phénomènes à partir de ces voiles et non pas à partir de ce qu'ils sont. C'est donc en travaillant à dissiper ces voiles que l'on va voir véritablement, on va atteindre directement, on va être à même d'être immergé dans la réalité.
Et pour dissiper ces voiles, de voix, sans doute, celle de la méditation, vous l'avez évoqué, mais aussi une voix, une dimension beaucoup plus pratique qui passe par une prise en compte de nos actes. Écoutons un extrait du Majjhima Nikaya, c'est le Bouddha qui explique ici à un de ses élèves, Rahula, la façon dont nous devons concevoir son fils, qui lui explique la façon dont on doit concevoir chaque acte qui a comme une forme de temps de maturation. Écoutons-le.
Rahula, quand tu as envie d'accomplir une action par le corps, la parole ou l'esprit, tu dois réfléchir ainsi. Cette action mène-t-elle à nuire à soi-même, à nuire à autrui, à nuire à soi-même et autrui? Est-elle erronée, productrice de maux, mauvaise dans son résultat? Si tu sais qu'effectivement cette action mène à nuire à soi-même, à nuire à autrui, à nuire à soi-même et à autrui, et qu'elle est erronée, alors, Rahula, une action telle que celle-là, tu ne dois pas, si possible, la commettre. Tu dois t'en détourner, la confesser, la dévoiler, et désormais t'en abstenir. Mais quand, après avoir réfléchi, tu sais qu'une action du corps, de la parole ou de l'esprit que tu as envie d'accomplir ne mène pas à nuire à soi-même, à nuire à autrui ou à nuire à soi-même et autrui, qu'elle est juste, productrice de bien, excellente dans son résultat, alors, Rahula, tu dois accomplir cette action. Il en résultera que tu chemineras dans la joie et le bonheur en t'exerçant nuit et jour dans ce qui est juste.
Paix intérieure.
Paix intérieure ? Ah, d'accord, ok. Mais à l'intérieur de quoi ?
C'est l'étape suivante de ton apprentissage. Tous les maîtres doivent trouver la voie de la paix intérieure. Certains vont méditer 50 années durant dans une grotte comme ceci, sans s'accorder une once de nourriture ni une goutte d'eau.
Ou sinon ?
D'autres la trouvent dans la douleur et la souffrance. Je fus de cela. Pour le jour où tu as été choisi pour être le guerrier dragon, aura été le plus terrible de ma vie. Et de loin, rien ne s'en est approché. Cela restera la plus amère, douloureuse, traumatisante expérience.
Non, on a compris.
Que m'aura infligé mon destin. Mais quand j'ai réalisé que le problème ne venait pas de toi, mais de moi, j'ai trouvé la paix intérieure. Et j'ai pu dompter le flux de l'univers.
Alors c'est ça. Faut que j'ai l'intérieur en paix. Mon ventre est déjà super, super pacifique. Alors faut juste, en fait, que tout le reste en fasse autant. Hé, la paix ! Viens là que je te cause.
Voilà, de l'incompréhension des préceptes du bouddhisme en Occident, autant l'assumer jusqu'au bout. C'est un extrait de Kung Fu Panda où on voit ce maître qui essaie d'initier son élève à cette paix intérieure. Le terme de paix n'est pas du tout étranger, il me semble.
Il y a du travail.
Voilà, on en est loin, hein, n'est-ce pas ? Mais précisément, cette paix intérieure, vous avez dit le but est de suspendre la douleur et d'arriver à l'éveil. Le texte qu'on a
pas
entendu...
Pas de la suspendre, de l'éradiquer.
De l'éradiquer, c'est l'extinction de la douleur.
Car la source de la douleur est dans notre esprit, ouais. Nulle part ailleurs.
Et le texte qu'on a entendu parlait de joie, de bonheur dans ce qui est juste. Donc là, on a à nouveau un critère moral qui intervient.
Bien sûr.
Donc
totalement assumé.
Et la joie et le bonheur sont des termes qui sont tout à fait recevables au sein du bouddhisme également.
Oui, mais ce n'est pas le bonheur auquel nous pensons habituellement, le petit bonheur qui nous arrive dans la vie. Ça, c'est un bonheur très transitoire. J'ai un de mes maîtres qui dit ce bonheur auquel vous espérez que vous espérez atteindre, en fait, c'est pas plus que finalement quelqu'un qui est condamné par la médecine et qui est cloué sur son lit d'hôpital dans d'atroces souffrances et qui, à un moment donné, avec un sédatif, ressent un soulagement de sa souffrance, mais il sait très bien que sa souffrance va revenir puisqu'il est condamné. Bon. Ben, les bonheurs auxquels nous pensons habituellement, ce ne sont que des bonheurs de ce genre. On est toujours dans l'hôpital et on va toujours en souffrir. Donc ça veut dire qu'on ne fait que oublier momentanément parce qu'on n'a pas travaillé sur l'origine, sur la cause. Les quatre nobles vérités, c'est la souffrance, mais quelle est l'origine de la souffrance? Et c'est la saisie de l'existence, la soif de l'existence.
Mais quelle est l'origine de la souffrance? Vous avez dit qu'on ne s'interrogeait pas sur les principes et les causes premières dans le bouddhisme. Alors cette question n'a pas de sens.
Si. C'est l'origine de la souffrance, c'est notre esprit. C'est notre esprit quand il s'accroche aux choses, quand il pense que les choses doivent avoir une solidité. C'est ça l'origine de la souffrance. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Cette ignorance nous pousse à désirer posséder les choses, à contrôler notre monde, à contrôler notre existence, à contrôler les autres autour de nous. Et c'est ça qui ne peut pas fonctionner, puisque tout est impermanent, puisque tout est fluide. Par conséquent, nous souffrons constamment.
Mais le bouddhisme permet-il d'expliquer ce mécanisme qui nous conduit à vouloir s'approprier les choses et à nous faire souffrir ?
Le mécanisme, je vous dis, il est dû à un voile fondamental qu'on appelle l'ignorance innée, et cette ignorance, elle accompagne en quelque sorte la clarté de notre esprit, ce qui fait que la clarté de notre esprit ne peut jamais véritablement, tant qu'on n'en prend pas conscience, se révéler à nous. Oui. Quand on commence à voir la clarté se déployer à travers la méditation, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien là, c'est cette clarté qui va travailler et qui va nous faire voir le véritable sens de l'existence, la véritable nature des choses. En réalité, la nature des choses, le sens de l'existence, on appelle ça la clair-lumière, l'esprit de clair-lumière. Et cet esprit de clair-lumière, c'est notre véritable nature de Bouddha. C'est-à-dire que nous sommes tous des Bouddhas. Hein? Si nous devenons des Bouddhas, si nous pouvons devenir des Bouddhas, c'est que nous le sommes déjà. Car l'état de Bouddha, c'est un état inconditionné. Ça veut dire que nous avons une part inconditionnée en nous, qui est déjà là, mais qui, pour l'instant, n'est pas visible. Donc, il faut faire un travail, en effet, de dévoilement, comme je vous le disais. Et quand on fait ce travail de dévoilement, on se trouve en contact direct avec notre propre nature. Cette sagesse, à ce moment-là, c'est elle qui mène nos actes. Nos actes n'ont plus l'impact négatif qu'ils avaient quand on était dans l'attachement, dans l'aversion ou dans l'ignorance. Ce sont les poisons de l'esprit, l'attachement, l'aversion, l'ignorance, qui créent des conditionnements, des habitudes, et ces habitudes créent de plus en plus de conditionnements. Donc notre esprit est un esprit d'aliéné, et c'est pour ça que nous souffrons. Et si nous n'avons rien compris au moment de la mort, eh bien, toutes les habitudes que nous avons créées nous projettent dans l'existence suivante. Et nous avons créé tous les scénarios de l'existence suivante. Le problème, c'est qu'on est de mauvais scénaristes et qu'en plus, on est obligé de se subir le film qu'on a projeté. Voyez. Et on est obligé, à chaque vie, en quelque sorte, de vivre ce que l'on a créé comme réaction aux événements des vies passées. C'est-à-dire que toutes les réactions que nous avons à chaque fois que nous faisons des actes, c'est ça qui crée le karma. Donc si on fait des actes positifs, le karma, ça veut dire des actes, tout simplement, mais des actes conditionnés. Un karma, c'est un acte qui est produit dans la perspective d'entretenir la vue du moi. Tant qu'on est centré sur l'égocentrisme, tant qu'on est égocentrique, tous nos actes sont karmiques, c'est-à-dire conditionnants, aliénants, nous empêchant en quelque sorte d'atteindre la liberté de notre esprit. Donc le but du bouddhisme, c'est de nous délivrer de toute cette gangue de conditionnements. Alors, ce n'est pas une mince affaire, évidemment. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts. Et le chemin spirituel n'est pas quelque chose de très facile. Parce qu'il faut travailler sur soi, et constamment.
Quelle place le bouddhisme fait-il à autrui? Puisque c'est un travail sur soi, comment intégrer, s'il le faut, les personnes qui nous entourent?
Je vais vous poser la question d'une autre manière. Comment peut-on prétendre travailler sur les autres si on n'a pas travaillé sur soi? C'est tout simplement ça. Si vous ne connaissez pas votre esprit, vous ne connaissez pas l'esprit des autres, vous ne pouvez que juger les autres par rapport à leurs travers, par rapport à leurs difficultés, mais vous n'avez aucune compréhension de ce qui se passe chez les autres. L'esprit de chacun fonctionne à peu près de la même manière. Quand on comprend tous les mécanismes qui nous mènent à la souffrance nous-mêmes, on a un regard complètement différent sur les autres. On ne peut plus juger les autres, c'est plus possible. On sait très bien qu'on est dans la même galère.
Oui, mais est-ce que les autres ont une importance dans l'acte de méditation et même dans le bouddhisme même? C'est une affaire finalement
constamment. Personnelle. Constamment. Quand vous atteignez une compréhension de la réalité, vous n'avez qu'un souhait, c'est que les autres l'atteignent également, parce que ça leur permettra justement de ne plus souffrir. Vous les voyez qui sont comme des mouches qui se cognent la tête contre les vitres. Et c'est extrêmement douloureux de voir ça. Plus vous progressez et plus vous voyez un petit peu la nature de la réalité et plus vous voyez les êtres qui font le contraire de ce qu'ils devraient faire pour atteindre le bonheur, et plus vous avez une seule envie, c'est de les aider. C'est la compassion qui s'élève de cette manière-là. Mais la compassion, la véritable compassion, elle se produit quand vous avez la réalisation de la réalité absolue. Si vous comprenez la vacuité de toute chose, vous comprenez que les êtres sont englués dans des rêves complètement absurdes. Et vous n'avez qu'un souhait, c'est de les sortir de ces rêves, de les réveiller. Car en fait, s'éveiller, c'est se réveiller. Nous dormons tous.
Reste à savoir comment transmettre cet enseignement. C'est dans le meilleur des cas, nous y parvenons au sein de cette vie, puisque par définition, la méditation ne peut venir que de soi. Quelle est la part de ce texte qui s'enseigne et qui se transmet?
Si on peut le faire dans cette vie, c'est-à-dire si on a beaucoup d'énergie sur le chemin, on peut progresser pendant cette vie, et ça dépend des chemins. Il y a des chemins courts, il y a des chemins plus longs dans le bouddhisme. Tout dépend des affinités qu'on a avec telle ou telle voie. Le Bouddha a enseigné de multiples voies pour se délivrer. Donc, on a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et ça dépend des affinités de chacun et des besoins et des capacités spirituelles de chacun au moment où il rentre en contact avec l'enseignement. Donc, il y a des enseignements extrêmement rapides de réalisation dans cette vie même. Et il y a des enseignements qui demandent des milliers de vies. Donc ça dépend complètement des individus. Mais on a toujours la perspective de continuer et de prolonger son chemin également dans les vies suivantes. Et c'est pour ça qu'on fait des vœux, et c'est pour ça qu'on crée aussi certains karmas positifs spécifiques qu'on appelle des bienfaits. Je préfère le terme bienfait au terme mérite, qui est très ambigu. Et ces actes positifs vont conditionner votre vie dans une dimension positive pour continuer votre cheminement et pour aider de plus en plus les êtres. C'est la voie du bodhisattva.
Et c'est-à-dire ?
Le bodhisattva, c'est un être qui se voue au bien-être de tous les autres. Le vœu du bodhisattva, c'est « je fais le vœu d'atteindre le plein éveil pour le bien de tous les êtres ». Ce n'est pas pour soi-même seulement, c'est pour le bien de tous les êtres. Car si je m'éveille, je ne suis plus aveugle. Si je suis plus aveugle, je peux conduire les autres. Mais les aveugles conduisant les aveugles, ça n'a jamais donné de grands résultats.
Mais qui juge du coup de ces bienfaits? Puisqu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas soi-même, nous n'avons pas les critères forcément en nous pour savoir si nous sommes sur la bonne voie, puisque vous parlez de
l'autorité, elle existe. Il y a des maîtres, il y a des lignées vivantes qui perdurent depuis le Bouddha. Il y a des lignées de maîtres à disciples, et il y a une transmission. Il y a une tradition, une transmission spirituelle, et la tradition spirituelle est extrêmement importante dans le bouddhisme. Ça se passe d'être vivant à être vivant. Et puis les maîtres ne sont maîtres que parce qu'ils ont fait l'expérience du chemin. C'est cette expérience qu'ils partagent avec leurs disciples. Donc en fait, il y a toutes les écritures qui sont là également. Les écritures, elles restent, elles sont extrêmement importantes. On étudie énormément dans le bouddhisme. Mais ces écritures, elles sont commentées oralement par les maîtres, qui eux sont détenteurs de la tradition orale. Donc il ne faut jamais oublier qu'il y a la tradition orale à côté de la tradition écrite.
Et heureusement pour nous, la radio existe pour transmettre la tradition orale. Un grand
Exactement.
Merci à vous, Philippe Corny, d'être venu nous parler du bouddhisme. Je renvoie à votre ouvrage « Le bouddhisme, une philosophie du bonheur » qui est disponible aux éditions du Seuil.
Sparkle in your China. Yes, I'll be there. What is
écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mostasavoy, qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, découverte de la pensée du philosophe Giorgio Colli, dont les deux ouvrages, Après Nietzsche et La naissance de la philosophie, sont publiés en format poche par les éditions de l'Éclat. Cette année, les éditions de l'Éclat, dont le catalogue est un véritable cabinet de curiosité, fêtent leurs 30 ans. C'est donc l'occasion pour nous de découvrir les classiques de leur auteur phare qu'elle publie à nouveau, comme ces deux ouvrages du philosophe Giorgio Colli. Peu connu du grand public en France, le philosophe italien Giorgio Colli, né en 1917 et mort en 1979, s'est démarqué par sa passion de l'Antiquité. C'est en véritable philologue qu'il a réédité Aristote et les présocratiques, mais aussi Nietzsche. Des philosophes antiques à Nietzsche, c'est a priori un véritable saut dans le temps que fait Colli, mais en lisant ces deux ouvrages, Après Nietzsche et La naissance de la philosophie, on trouve une véritable cohérence, celle de la philosophie même de Giorgio Colli. Alors déjà, il faut le dire, la pensée de Colli se présente dans un style déconcertant. Si l'analyse est précise, rugueuse même à certains égards, il ne faut pas avoir peur d'être perdu dans les détails qui nous sont méconnus de la philosophie de Nietzsche ou dans les énigmes du début de la philosophie, eh bien il y a un véritable plaisir à lire sa langue et à le voir proposer une lecture originale des penseurs qui lui sont chers, à le voir ainsi proposer une autre approche de la philosophie. Car dans Après Nietzsche, comme dans La naissance de la philosophie, qui résonne d'ailleurs avec sa naissance de la tragédie, Colli veut aller plus loin que Nietzsche, après lui donc. Nietzsche, pour Colli, a eu les bonnes intuitions, mais il a manqué ce paradoxe fou de la philosophie, celle d'être une rationalité justement folle, énigmatique, mystique. Et là est la grande force de Colli, nous montrer que le moteur même de la philosophie, de cet exercice de la raison parfois abstrait, n'a de sens que si l'on prend en compte son fond vivant et insensé qui n'opère que dans l'action de la discussion et de l'échange. Je rappelle le titre des deux ouvrages de Giorgio Colli, c'est Après Nietzsche et La naissance de la philosophie, et c'est publié par les éditions de l'Éclat.
Merci Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine consacrée à l'âme russe. Pushkin, Gogol, Tchekhov et Solzhenitsyn, c'est ce qui vous attend dès lundi prochain, 10h. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins de la Connaissance où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Et enfin, si d'ici lundi, vous ne pouvez vraiment pas vous passer de philosophie, rendez-vous dimanche à 16h pour le Gai Savoir de Raphaël Antoven et Paola Reimann. Raphaël et Paola vous parleront ce dimanche du Voyageur et son ombre de Nietzsche. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. C'est l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.